Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Depuis plus d'un mois, le thermomètre affiche des températures élevées au Mali. Elles ont atteint jusqu'à 46 degrés par endroit ces derniers jours, provoquant des maladies et de nombreux décès. Les spécialistes imputent ces pics de chaleur aux effets du réchauffement climatique. Mais qu'en est-il réellement? Quelles sont les solutions envisageables à long terme? On échange sur ces questions avec Dr Moussa Dabo, médecin au CCRF de la commune 6 de Bamako. Avec nous également Amadou Diakité, ingénieur à Mali Météo. Notre troisième invité est Soumana Koulibaly, environnementaliste. Alerte canicule, le Mali face aux effets du changement climatique. C'est le thème de ce débat. Je suis Mariam Koulibaly pour la présentation. Bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, la première question, nous allons l'adresser à Amadou Diakité, qui est ingénieur à Mali Météo. Comment expliquez-vous les fortes températures de ces dernières semaines?
Ok, merci pour cette question et merci pour l'initiative. Ça permettra aux Maliens d'être beaucoup plus édifiés par rapport à la situation du moment.
Merci.
Et concernant ce pic de chaleur, c'est dû à une superposition de plusieurs phénomènes. Il y avait déjà la brume de poussière qui était en suspension dans l'atmosphère depuis un certain temps. Et en plus, il y a une dépression qui s'est creusée sur le Mali. Donc,
un terme plus facile.
Oui, je vais expliquer.
Okay.
Donc, la dépression, elle a pour conséquence une baisse de pression, la dépression.
Okay.
Donc, la dépression aura pour conséquence de faire un appel d'air de mousson. Donc, la mousson, c'est de l'air humide. Et quand l'air humide aussi vient, en plus de l'ensoleillement, donc la sensation de chaleur ressentie est très insupportable. Et ça amène aussi d'autres conséquences, par exemple, sur les personnes qui sont vulnérables. Le médecin peut-être pourra parler de ça après. Donc, le processus de convection s'est déclenché. Donc, il y avait un apport d'humidité. L'apport d'humidité plus la chaleur plus la brume de poussière. Donc, il y a une hausse des températures. Cette hausse des températures doit logiquement s'évacuer en altitude. Mais il y avait comme un couvercle qui empêchait l'évacuation de cette chaleur. Donc, ce qui faisait que la température grimpait de plus en plus, et les gens n'arrivaient plus à supporter.
Donc, si je comprends bien, il y a une couche qui protégeait la terre au moment où cette température, forte température était compressée un peu au niveau de la ville, si je comprends bien. Sinon, nous qui ne sommes pas du métier, c'est un peu compliqué.
Il faut savoir que si on prend par exemple Bamako, le cas
c'était
de Bamako.
Comme une bulle, bulle qui était fermée,
oui,
à l'intérieur,
exactement.
Un gaz qui ne pouvait pas s'échapper.
Oui, c'était exactement comme
voilà.
Ça. On était comme si on était dans un four.
Oui.
Parce que Bamako est entouré de collines, si on prend le cas de Bamako, et tout ça ajouté à l'humidité, à la brume de poussière, il y avait eu le processus de convection qui doit donner normalement des nuages. Mais si le processus n'arrive pas à terme, ça amène d'autres problèmes, parce que l'air n'est pas évacué. Le vent était calme à l'époque, les gens ont remarqué que le vent ne circulait même pas. Donc tout ceci intensifie la sensation de chaleur sur le corps. Ce qui fait que les gens aussi étaient en carême, ils n'arrivaient pas à s'hydrater. Ça a amené des événements dramatiques que tout le monde connaît.
Le docteur pourra nous en parler. Alors, Soumana Koulibaly, monsieur du Mali Météo, l'a expliqué de façon scientifique,
oui,
il a tenté de donner des explications.
Oui.
Mais vous, étant environnementaliste, est-ce que vous pensez que cette forte chaleur que la population malienne a connue ces derniers temps est due aux effets du changement climatique?
Oui, merci bien, Sio Tamani, pour les efforts que vous faites dans le cadre de la sensibilisation de notre population sur les enjeux environnementaux. Vraiment, vous êtes à saluer. Et pour mes collègues aussi, les saluer d'avoir accepté l'invitation et mettre leur savoir à la disposition de la population, c'est très important.
Merci.
C'est très, très important. Et puis, on peut même dire que c'est un acte patriotique.
Merci.
On peut les saluer pour ça. Effectivement, la question des changements climatiques en relation avec la hausse des températures, c'est un débat de longue date. Depuis la moitié du 19e siècle, ça a été développé par les scientifiques, comme quoi que, bon, il y a des facteurs naturels, comme ils viennent de le dire, mais il y a d'autres facteurs qui sont liés à l'homme. La production de certains gaz qui vont, comme il vient de l'expliquer, qui vont s'emmagasiner un peu en altitude et même contribuer à conserver la chaleur du soleil du moins. Donc ce qui contribue un peu à la hausse des températures au niveau de la Terre. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de serre, l'effet de serre. Les météorologues aiment bien ce terme-là, l'effet entre guillemets, l'effet de serre, qui n'est autre chose que la compression de la chaleur solaire sur la Terre, qui est en partie aujourd'hui liée au fait que nous produisons beaucoup de gaz. Le gaz carbonique, le COD, le méthane et le dioxyde aussi et d'azote, qui proviennent bien sûr de nos activités. Et le COD, ça provient des unités industrielles, tout comme ça peut provenir aussi des brûlures des biomasses, c'est-à-dire les plantes qui sont brûlées, les feux de brousse, pour ce qui nous concerne. Et le méthane, c'est généralement dans les champs aussi. Les engrais chimiques qui sont utilisés dans nos champs produisent aussi ces gaz-là. Donc, les recherches ont démontré quand même que l'émission de ces gaz-là ont, en tout cas, une part importante dans l'élévation de la température et de surcroît même dans le réchauffement et les changements climatiques. C'est pour cette raison que le groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques a été créé en 1988 pour s'occuper de ça. Ces experts font beaucoup de recherches, ils produisent régulièrement des rapports. Je crois que leur premier rapport a été produit dans les années 1992. Le dernier, c'est dans les années 2021-2022, comme ça. Et chaque fois, ils mettent l'accent sur vraiment l'alerte, comme quoi que l'activité humaine contribue à un peu exacerber les effets des changements climatiques, notamment l'élévation du niveau des températures.
Mais le Mali, si je peux me tromper, n'est pas un pays tellement industrialisé et en termes d'agriculture, on est encore loin de certains pays en termes de production. Mais qu'est-ce qui fait que le Mali, il fait autant chaud au Mali?
Oui, c'est un peu naturel parce que c'est lié à notre position géographique. Nous sommes situés dans la zone intertropicale. Qui dit zone intertropicale, c'est, si je ne me trompe pas, c'est entre les 10 degrés et les 25 degrés de la latitude nord, au nord de l'équateur. Notre position naturelle fait que nous sommes dans une zone chaude de la Terre. Et en plus de cela, il y a d'autres phénomènes, comme il l'a expliqué, les phénomènes naturels sont là. Mais l'explication fondamentale de ces derniers temps de l'élévation de la température, c'est vraiment en lien avec nos activités. Mm-hmm. Par exemple, si vous prenez les grandes villes, les quantités de gaz produites par les villes, généralement, sont vraiment élevées. Et les services techniques compétents sont les mieux indiqués pour avoir beaucoup d'informations, beaucoup plus poignantes sur ça. Maintenant, au Mali, nous produisons du COD à travers les feux de brousse, comme je l'ai dit, l'agriculture sur brûlure, et nos vastes champs de riz aussi produisent beaucoup de gaz. Oui. Les scientifiques le savent. Donc tout cela ne peut pas être absorbé par notre milieu naturel, parce que le milieu naturel, c'est un mécanisme, un ensemble, un écosystème, c'est un tout. Normalement, le gaz qui est produit, les gaz nuisibles qui sont produits doivent être absorbés par les plantes et par l'océan. Malheureusement, on n'a pas d'océan. Mm-hmm. Maintenant, une grande partie est conservée au niveau de la couche d'ozone, qui est l'enveloppe qui protège un peu la Terre des ensoleillements, des rayons solaires. Mais il se trouve que, même si nous ne produisons pas beaucoup, comme vous l'avez dit, les recherches ont prouvé quand même que nous sommes, entre guillemets, impuits. De gaz carbonique, c'est-à-dire que nous avons une grande capacité de séquestration, de destruction des gaz carboniques, mais pour autant, il faut quand même le relativiser parce que nous, quand nous faisons des recherches dans nos différentes régions, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de zones qui produisent ces gaz nuisibles qui sont à l'origine de l'effet de serre sur nous. Je viens en complément à ce qu'il vient de donner comme facteur expliquant, mais c'est pour cette raison, nous, dans le domaine de l'environnement, on pense quand même que c'est imputable au changement climatique parce que les effets des actions anthropiques, ce n'est pas seulement ciblé. Mm-hmm. L'action de l'Europe peut se répercuter sur nous. C'est surtout c'est là qu'il faut intégrer. L'environnement est un tout. Les industriels européens
On va en venir. Voilà. D'ici là, on va donner la parole à Dr Moussa Dabo, qui est médecin au CCRF de la commune 6 de Bamako. Alors, Monsieur Dabo, comment est-ce que le personnel sanitaire a vécu ces périodes de canicule à Bamako ici?
D'abord, je vous remercie le studio Tamani de m'avoir invité. C'est une première pour moi. Ouais. Voilà, donc c'est un plaisir.
J'espère que ça ne sera pas une dernière.
Inch'Allah, Inch'Allah. Okay. Mais donc je dirais que le personnel de la santé a vécu cette situation avec beaucoup de désarroi. Et on était désarmés. Parce que d'abord, le personnel sanitaire est dans un système. Et il faudrait reconnaître que le système de santé aujourd'hui au Mali fait ce qu'il peut, mais on n'est pas suffisamment outillé pour faire face à certains phénomènes épidémiologiques. Parce que c'est comme une épidémie actuellement. Tant qu'il y a une hausse un peu extraordinaire d'un phénomène, on considère ça comme une épidémie. Mais de toutes les façons, on a essayé de faire face avec les outils dont nous disposons. Mais je crois que chaque année, à peu près, hein, voilà, sauf si je suis contredit par les autres experts, on a, pendant cette période de mars, avril, mai, des pics de chaleur au Mali. Je ne me rappelle pas à un moment donné de ma vie ici qu'en mars, avril, mai, il a fait froid. Donc comme il a dit, c'est quelque chose qui est lié à notre position géographique. On est un pays intertropical. Et donc on a fait face à cette situation avec des arrois, mais avec les outils qu'on peut. Mais comme je le dis, je peux peut-être profiter pour expliquer ce qui explique ce nombre de morts. Parce que l'homme, déjà, il faut qu'on ait savoir physiologiquement que l'homme est un homéotherme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme, normalement, a la capacité d'adapter sa température de façon invariable en fonction de la température extérieure. Qu'il fasse 1 degré dehors ou 40 degrés, l'homme est capable de maintenir, doit être capable de maintenir sa température à 37 degrés. C'est ce qu'on appelle un homéotherme. Donc, on a un système de climatisation interne qui fait que, quel qu'il en soit, nous puissions garder notre température à 37 degrés. C'est la température à laquelle le système organique fonctionne correctement. Mais sauf que chez les personnes vulnérables dont on a parlé, que ce soit les enfants de moins de 5 ans ou les personnes âgées, surtout ceux qui ont un grand âge, à partir de 70 ans, il y a un dysfonctionnement qui se joue à plusieurs niveaux. Ça veut dire quoi ? Les personnes âgées, par exemple, ils ont un problème de perception de la soif, contrairement à nous. Nous, on a un mécanisme qui fait que dès qu'on est déshydraté, parce que le stock hydrique de l'être humain, il est de 50% pour les adultes et de 75% pour les enfants. Donc, mais normalement, quand il est réduit de 3 à 5% chez les enfants et de 5 à 7% chez les adultes, il y a le phénomène de la soif qui est déclenché par le cerveau au niveau de l'hypothalamus. Et les personnes âgées, ce mécanisme-là ne fonctionne pas correctement. Ils peuvent être déshydratés, mais
ils ne le savent pas, ils ne les ressentent pas.
Ils ne ressentent pas, premièrement. Le phénomène de chaleur, ils le perçoivent moins au niveau cutané. Tout ça, c'est lié à une détérioration physiologique. Parce qu'en vieillit, les cellules se dégénèrent. Et troisièmement, c'est que ces mêmes personnes âgées ne ressentent pas la soif comme nous le ressentons. C'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas, mais non seulement, ils n'arrivent pas à s'hydrater correctement aussi. Vous voyez ça ? Donc tout ça mis bout à bout, et que c'est des personnes qui ne sont pas très autonomes d'elles-mêmes. Donc ça fait qu'il y a des risques de décès qui survient. Parce qu'ils ont, ils ont besoin d'eau, mais ils n'ont pas soif. Et donc, ils finissent par en pâtir. Donc, ce qui fait que nous, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, on devait mettre l'accent d'abord sur les phénomènes de sensibilisation. Parce que,
on va en venir aux solutions. D'ici là, nous allons donner la parole à Amadou Diakité de Mali Météo. Tellement qu'il a fait chaud cette année. On a entendu toutes sortes de théories. Il y a, sur les réseaux sociaux, il y a des théoriciens qui ont même dit que le Mali n'a jamais atteint ce pic de chaleur. Est-ce que vous le confirmez?
Dans certaines stations, on a eu à battre des records mensuels de température moyenne. Mais les records absolus n'ont pas encore été battus jusqu'à présent. Par exemple, si je prends l'exemple de Kai, les gens ont dit beaucoup de choses, mais la température absolue pour Kai n'a pas encore été battue.
Et la température absolue à Kai atteint combien, par exemple?
Bon, c'est autour de 49,7. Et ça date du 12 avril 1934. Donc, ça n'a pas encore été battu. Mais quand même, on était proche.
On était proche.
Oui.
OK. Mais pourquoi à Bamako, je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste, mais pourquoi à Bamako, bien dans les capitales, il fait plus chaud que dans les localités et dans les zones les plus reculées?
Oui, ça, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a les îlots de chaleur urbains qu'il faut prendre en compte. Les maisons, la construction, l'urbanisation de Bamako, il y a plus d'espace vert. il y a moins d'arbres, il y a moins de forêts. Et aussi, tout est construit en ciment. Donc, ce qui fait que quand il fait chaud, le ciment va emmagasiner de l'énergie et après, il va réémettre. Donc, tout ça fera que la chaleur va être intensifiée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et il y a aussi des problèmes de ventilation parce que les maisons sont trop petites dans les villes et ils sont trop collés. Même les carrés, souvent, il n'y a pas assez d'espace. Donc, tout ça fait qu'il y a moins d'aération. Alors que la ventilation naturelle aussi permet de soulager quand il fait chaud et quand il y a un peu d'arbres dans les maisons. Donc, dans les villes, les gens négligent, je dirais ça, ces aspects, alors que c'est très important en période de canicule.
Ok. Et votre co-débatteur, M. Koulibaly, a évoqué aussi un point comme quoi, même si le Mali n'est pas tellement industrialisé, les pays européens, leurs émissions de gaz à effet de serre peuvent aussi impacter le Mali. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela?
Oui.
Nous sommes en quelque sorte des dommages collatéraux.
Oui, je suis d'accord avec lui.
Oui.
Mais c'est qu'il faut savoir que, il faut savoir que les gaz à effet de serre, c'est un processus naturel même qui permet même de réguler la température de la Terre. Sans les gaz à effet de serre, même la Terre même va disparaître aussi.
D'accord.
Donc, mais il y a une émission en excès des gaz à effet de serre, que ce soit de manière industrielle, que ce soit aussi l'agriculture et aussi, comme il a eu à le dire, les déchets. Donc, ce qui fait que quand c'est surabondant dans l'atmosphère, ça amène d'autres problèmes que de réguler naturellement la température de la Terre. Donc, les gaz à effet de serre, eux, ils ne font qu'absorber la chaleur qu'ils reçoivent de la Terre. Et après, ils vont les réémettre, pas dans l'espace, mais encore sur la Terre. Donc, ce qui fait que nous, on reçoit déjà de la chaleur. Et aussi, ils nous donnent encore de la chaleur. Donc, on sera surabondant en chaleur. Donc, ce qui fait que c'est problématique. Mais effectivement, l'atmosphère n'a pas de frontières. La plupart de ces gaz ont été émis depuis presque un siècle, comme il a eu à le dire. Mais c'est les pays développés qui l'ont fait. Mais le problème, c'est que les conséquences, ça touche tout le monde. C'est une seule planète. Donc souvent, parmi ces conséquences, il y a la hausse des températures. Parce que souvent, lors des COP, vous entendez que si on ne prend pas des précautions d'ici 5 à 10 ans, 20 à 30 ans, la température va monter de 1 à 2 degrés de plus. Et ça aura comme conséquence beaucoup de dégâts, aussi bien sur les animaux, sur les hommes et même sur notre environnement. Il peut y avoir beaucoup d'inondations, beaucoup de cyclones,
des sécheresses, beaucoup,
des, sécheresses oui. Des vents violents.
Et des déplacements même dus à ces effets-là.
Tout ceci font partie des conséquences des gaz à effet de serre parce que c'est surabondant maintenant dans l'atmosphère jusqu'à ce que ça amène d'autres problèmes au lieu d'être une solution pour la Terre.
Alors, M. Koulibaly, à Bamako ou bien dans les capitales, il fait extrêmement chaud.
Oui.
M. Diakité a évoqué certains points, notamment l'urbanisme même de la ville de Bamako, la façon dont les maisons sont construites, le mode de vie même des Bamakois. Qu'avez-vous à dire sur ces différents points?
Oui, tout à fait. C'est des paramètres à intégrer dans les analyses. Hein. C'est tout à fait normal.
Mm-hmm.
L'urbanisation avec l'augmentation de la population et l'accroissement, et sinon même l'intensification des activités humaines. Surtout les grandes villes vont avec l'industrialisation. Et il y a aussi le transport, le secteur des transports qu'on avait omis, qui est aussi un secteur vraiment qui contribue à la hausse des températures au niveau des villes. Bamako, si vous vous amusez à faire la comparaison, il est un spécialiste. La température entre les raïdas et la température de la périphérie, ce n'est pas forcément la même chose. Il y a surtout c'est cela qui fait que vraiment dans les grandes villes, l'affluence humaine avec les activités qui s'en suivent explique un peu, et en tout cas, la concentration de la chaleur à une certaine heure. Et même si cette chaleur peut s'évacuer après, mais en tout cas, à partir de certaines heures, de 14h jusqu'à 15h, voire 16h, cette concentration de chaleur est quand même constatée au niveau de l'environnement. Et l'explication sur le plan environnemental, nous, on l'attribue généralement vraiment au précédent que je viens de citer, aux facteurs précédents que je viens de citer. Et au-delà de nos grandes villes, il est quand même important de savoir que cette hausse des températures peut toucher d'autres zones. Comme il l'a dit, la région de Kayes, c'est une région naturellement, dans sa composition géologique, est une zone située sur des roches qui émettent également de la chaleur. Si cela s'ajoute aussi aux autres paramètres que nous venons d'évoquer, naturellement, avec l'évolution du temps, cette chaleur-là pourra vraiment se maintenir. C'est surtout ce qui est consigné dans nos documents officiels, que ce soit le document national de la météorologie qui fait des prévisions, et que ce soit la contribution nationale du déterminé dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique qui est produit par l'AEDD, l'Agence de l'environnement et du développement durable. Dans tous ces documents, on a quand même compris que les prévisions mettent l'accent sur ce facteur-là. Et en 2020, on a compris quand même que le Mali devait, de façon globale, observer une hausse des températures de 0,5 degrés. Que ce soit dans leur document ou le document de l'AEDD, ça a été consigné dans les prévisions.
Donc c'était prévisible?
C'était prévisible. Les recherches ont été faites là-dessus. Et en 2030, normalement, on doit dépasser les 1 degré. On doit aller jusqu'à une hausse de 1,5 degré Celsius. Donc, peut-être, comme vous le dites, au niveau des solutions, on verra ce qu'il y a lieu de faire.
Je comprends bien, les températures pourraient s'accroître dans les jours à venir.
Oui, si on se réfère aux documents officiels produits par les experts, et les structures étatiques, vraiment, c'est des références qui nous font indiquer quand même que cette hausse des salaires risque d'être tendancielle, vraiment. Ça, on ne va pas prédire, mais ce sont des prévisions. Oui. Ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. Mais on est obligé de se référer à ces prévisions-là, oui, conformément aux documents officiels.
Docteur Moussa Davout, qui parle de chaleur, parle aussi de maladies. Pendant cette période-là, quelles sont les maladies qui ont touché beaucoup les populations? Quelles sont les maladies qu'on a eu à rencontrer? Par exemple, on a entendu parler de la méningite. Est-ce qu'il y a d'autres cas de maladies qui ont refait surface pendant cette période de chaleur-là?
Pendant cette période de chaleur, on a parlé de méningite, mais c'est lié, comme il a parlé de suspension de poussière. Mm-hmm. On sait que la méningite est liée à ce facteur-là.
D'accord. Mais donc, ce n'est pas forcément lié à la chaleur?
Non.
D'accord.
C'est la suspension de poussière, d'accord, généralement. Mm-hmm. Et ça, c'est connu. Et généralement, pendant cette période, on a tout ce qui est lié aux maladies de la peau, les maladies dermatologiques, tout ce qui est allergie, coup de chaleur, mais les déshydratations aussi, comme on l'a dit, chez les personnes âgées. Mais en plus de ça, la chaleur décompense des maladies chroniques déjà existantes. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui avait déjà l'hypertension ou une maladie cardiaque quelconque, quelqu'un qui avait un diabète, bon, c'est un peu technique, une maladie de Cushing, c'est des maladies endocriniennes. Mm-hmm. Donc ces personnes-là vont avoir leur état qui va se détériorer par rapport à la déshydratation, en fait. Le fait qu'ils seront déshydratés, parce que c'est les maladies qui sont régulées par l'eau. Donc, tant que ces personnes seront déshydratées, ils auront une aggravation de leurs problèmes cardiaques, de leurs problèmes d'hypertension, de leurs problèmes de diabète, mais également aussi, comme j'ai dit, des problèmes de peau. Exactement. Donc, il y a ces pathologies-là qui existent, qui ont émergé, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres pathologies qui vont s'aggraver pendant cette période. C'est-à-dire qu'elle existait déjà, mm-hmm, mais elles vont s'aggraver à cause de la chaleur qui entraîne la déshydratation.
Est-ce qu'il y a plus de consultations pendant les périodes de chaleur que vers l'hivernage, par exemple, en termes de comparaison?
Non, en termes de comparaison, le pic au Mali, c'est l'hivernage. Et ça, c'est lié au paludisme et aux maladies liées à l'eau. Mm-hmm. Mais le pic, c'est en ce moment. Sinon, actuellement, il y a beaucoup de maladies, mais quand vous partez, par exemple, devant les services d'endocrinologie, là où il y a les diabétiques ou les maladies métaboliques sont là, vous voyez qu'il y a une forte affluence. Ou chez les cardiologues. Comme je l'ai dit, tout ce qui est lié aux fonctions de régulation de l'eau, que ce soit au niveau du rein, que ce soit au niveau du foie, au niveau de la pompe cardiaque, ces maladies-là vont réémerger pendant la période de chaleur, comme je l'ai dit, parce que la période de chaleur fait qu'il y a une perturbation de l'équilibre hydroélectrolytique, c'est-à-dire de l'eau et des électrolytes chez l'homme. Parce que quand on est déshydraté, il y a les éléments minéraux aussi qui sont perturbés, que ce soit l'ion sodium, le sel, que ce soit le calcium. Donc ceux-là, soit ils vont sortir en masse dans la transpiration ou lors des fuites urinaires. Donc quand cet équilibre n'est pas bon, les maladies qui sont liées à tout ça vont émerger. Je ne sais pas si c'est trop technique pour vous.
On parvient à comprendre,
à capter un peu.
Alors, Amadou Diakité, on vient d'évoquer les conséquences de cette canicule sur la santé. Et est-ce qu'on peut énumérer d'autres conséquences, par exemple, sur l'environnement ou bien sur d'autres activités, secteurs d'activité, par exemple?
Les conséquences de la canicule.
Oui, de la canicule.
En période de canicule, en général, il est recommandé aux gens de minimiser les activités physiques. Mm-hmm. Parce qu'on est dans un pays pauvre, tout le monde n'a pas la climatisation.
Surtout qu'il n'y a pas d'électricité
aussi. Pour se rafraîchir. Oui. Et il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de forêt où les gens pourront s'abriter, faire des pauses. Donc, il est recommandé de minimiser les activités physiques. Que ça soit en pleine journée, 13 heures, surtout entre 13 heures et 15 heures, mmh. où il fait excessivement chaud, parce que le maximum de température dans la journée, c'est observé aux alentours de 15 heures, 14h30, 15 heures. Donc, il fait excessivement chaud. Et si vous avez des choses à faire, comme l'a dit le docteur, vous allez beaucoup transpirer, vous allez perdre beaucoup de sels minéraux, vous allez perdre beaucoup d'eau. Et si vous n'avez pas un endroit où vous hydratez, vous aurez des problèmes. Et même pendant cette période de chaleur humide, même pour respirer, c'est des problèmes. Parce que c'est pas évident de respirer de l'air humide, quoi. C'est pas bon pour l'organisme.
Est-ce qu'en ce moment, on pourrait dire qu'il y a une baisse des températures? Est-ce qu'on atteint encore les 40 degrés? Nous sommes à combien de degrés en ce moment?
Actuellement, il y a des zones du Mali où on est toujours dans les 46 degrés,
45 degrés.
Par exemple, comme la région de Kaï, mm-hmm. il fait toujours chaud là-bas, mm-hmm. un peu au centre et au nord. Mais dans la région de Sikasso et une partie de l'extrême sud du Mali, les températures sont un peu à la baisse parce qu'ils ont reçu des cas de pluie successivement. Donc, ce qui participe à adoucir l'air. Donc, il y a un contraste d'un côté où il fait excessivement chaud sur une partie du territoire, mais il y a une partie aussi où ça commence à avoir des améliorations.
Quand nous, on entend parler de pluie, de précipitations, on pense directement à l'hivernage. Bamako a enregistré ses premières pluies. Est-ce qu'on va dire que l'hivernage s'est déjà installé sur la ville de Bamako?
Non. L'hivernage...
Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. Okay. Tout ça, c'est lié aussi même à l'effet des canicules.
Oui.
Parce que durant la période de canicule, comme j'ai eu à le dire au début, il y a eu un appel de mousson dû à la dépression, à la baisse de pression. Mais ce n'était pas assez suffisant pour donner des formations orageuses. Donc, l'énergie aussi était piégée. Donc, c'est pourquoi les gens avaient des sensations d'inconfort insupportables. Parce que quand il y a assez d'humidité, vous suez même, quoi. L'organisme est obligé de se protéger en refroidissant le corps. Peut-être le docteur va revenir sur ça. Donc, vous perdez des minéraux. Et c'est problématique si vous ne vous hydratez pas. On était en période de carême. Et je voulais aussi revenir aussi et sur le fait que effectivement c'est que mon collègue a dit
et
oui Monsieur Koulibaly et l'organisation météorologique chaque année et publie un document et on a remarqué que ces quatre dernières années on se rend compte que chaque année devient l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre depuis 2021 juste après le Covid on a remarqué que les températures sont toujours à la hausse. Et les chercheurs, ils font des scénarios. Il y a des scénarios qui sont un peu optimistes. Il y a des scénarios qui sont assez, je dirais, moyens. Et il y a des scénarios qui sont pessimistes. Là, on dit qu'on aura des températures qui seront à la hausse de 4 à 5 degrés même. Comme lui, il a dit 0,5 1 degré d'ici 30 ans. Mais il y a des scénarios qui disent que si on ne fait rien pour changer les choses, et penser à préserver l'environnement, changer notre mode de consommation même, que ce soit la nourriture et en consommant des trucs dans un circuit court. Mm-hmm. Par exemple, quelque chose, si je prends l'exemple du sucre, au lieu d'aller payer du sucre qui vient de Bangladesh, c'est mieux de payer du sucre qui est produit au Mali. Le coût de transport est moindre, ça produit moins de pollution. Aussi, pour les voitures, il faut faire du covoiturage. Si nous, on va tous en ville, c'est recommandé qu'on fasse du covoiturage au lieu que chacun prend son véhicule pour aller en polluant l'atmosphère. Donc, c'est des comportements qu'on essaye d'instaurer dans les pays développés pour réduire les conséquences de l'homme sur l'environnement. Mais au Mali, ce que je trouve déplorable, c'est que Toutes nos forêts sont en train d'être détruites, alors que ces forêts contribuent non seulement à lutter contre la forte chaleur, mais aussi ils apportent de l'humidité, d'évapotranspiration. Ça participe aussi à la formation des nuages et aussi à donner de la pluie. Donc si on détruit les forêts, on aura moins de pluie, donc plus de sécheresse, plus de canicules et aussi plus de drames comme ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps.
Alors, M. Diakité a abordé plusieurs solutions. Il a parlé même de covoiturage. Est-ce que M. Koulibaly serait prêt à faire du covoiturage? La question, mais quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver en ce moment?
Oui, avant les solutions, il y a en tout cas quand même les conséquences qu'il faut craindre, comme mes co-débatteurs viennent de lui, comme Diakité le dit, comme docteur le dit. Mm-hmm. Les conséquences, c'est la mort pour les hommes. On constate quand même une hausse de la mortalité, comme il l'a dit, chez les personnes vulnérables surtout. Et ensuite, les conséquences sur l'environnement, c'est qu'on va en tout cas observer de temps en temps une nouvelle répartition des zones climatiques. C'est-à-dire que le Sahara risque de se migrer un peu vers le Sahel et que le Sahel soit glissé sur la zone un peu soudanienne. Ce sont des conséquences immédiates qui sont là quand même en termes de température. Mmh. Parce qu'habituellement, les températures qui sont enregistrées au Sahara, on constate de plus en plus qu'ils sont de plus en plus enregistrées au niveau du Sahel. Mmh. Et en plus de cela aussi, il y a le faible rendement, la baisse des rendements au niveau du travail. Parce que quand il fait très chaud, il n'est pas évident que les gens puissent travailler pendant 2 heures. Et cela peut jouer sur l'économie et même avoir des répercussions. Maintenant, pour les plantes, même la répartition des espèces animales et végétales, ça peut jouer sur ça. Parce qu'une espèce qui n'est pas habituée à la forte chaleur sera obligée de migrer dans une autre zone. Et de la même manière, comme il vient d'expliquer chez les hommes, chez les végétaux, tout comme chez les animaux, et les espèces qui ne sont pas habituées à développer des systèmes de défense contre la forte chaleur vont soit disparaître ou encore se déplacer dans d'autres zones. Donc, c'est des conséquences immédiates qui sont là. Maintenant, les solutions à envisager, il a abordé des solutions très pratiques quand même. Mais je pense que l'État du Mali s'est engagé dans des solutions à réduire un peu, en tout cas, comme on a eu à le dire, les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, c'est compromettant parce que nous sommes un pays sous-développé, on doit se développer. C'est des questions vraiment très tendues avec les économistes. Quand on aborde la question de la réduction des émissions dans le domaine de l'énergie, vraiment, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, c'est un sujet très délicat. Mais quand cela ne tienne, on sera obligé quand même d'adopter des solutions un peu plus pratiques, c'est-à-dire trouver des mécanismes d'énergie renouvelable pour remplacer les combustibles au niveau de nos industries et encourager de plus en plus les propriétaires de terriens et les propriétaires d'immeubles à un peu coupler le système électrique un peu photovoltaïque au système ordinaire. C'est-à-dire qu'il faut avoir les deux en même temps. Si pendant la journée, on peut faire éclairer nos bâtiments par les panneaux solaires, tant mieux. Et la nuit, si on n'a pas de système de remédiation, on peut continuer sur l'ancien système en attendant qu'on trouve les moyens et les mécanismes adéquats. Mais en plus de cela, il y a d'autres solutions quand même que le Mali a proposé au niveau de ses partenaires, qui ont même financé des projets, des grands projets, dans le domaine non seulement de la foresterie. Il a parlé du reboisement dans le domaine de la foresterie. La Direction générale des eaux et forêts est sur des projets de reboisement. Dans le domaine de l'agriculture, on est en train de réfléchir à une agriculture plus intelligente avec l'irrigation adaptée un peu à un développement durable. Et il y a beaucoup de techniques. Comme je l'ai dit, que ce soit l'agriculture, le domaine de l'exploitation de la forestière, que ce soit dans le domaine de l'énergie, le Mali a proposé des solutions. Et je crois que ces solutions, il faudrait les mettre en vigueur pour que nous puissions un peu maîtriser notre situation, quand même si nous devons faire face aux actions et aux conséquences des autres populations.
Est-ce que le Mali dispose d'assez de financement ou bien de fonds pour faire face à tous ces problèmes-là?
Oui, les fonds n'existent pas toujours, mais on doit les chercher. Et nous avons trois catégories de fonds. On a le fonds climat pour le Mali même, il y a le fonds vert climat aussi, il y a aussi des dons qui proviennent aussi d'autres horizons. Le Mali même est prêt à s'engager, à s'endetter pour résoudre ces questions-là. C'est vrai que ce n'est pas un domaine très rentable, entre guillemets, mais on est prêt à s'engager sur des prêts commerciaux pour un peu régler ces questions-là, et notamment les projets qui nous tiennent à cœur. Je pense que la question des ressources, elle peut être résolue si l'engagement politique est là. Et je ne doute pas de l'engagement politique de nos autorités, vu les grands projets qui ont été initiés, le système hybride d'électrification dans les zones de Kaï, dans les zones de Ségou et Sikasso, qui sont en train d'être vulgarisés par la direction de l'énergie, est un exemple illustratif. Il y a aussi le système d'irrigation dans le bassin du Bani et du fleuve, dans le bassin du Bani, qui est aussi un système d'irrigation beaucoup plus adapté, en tout cas, à la protection de l'environnement. Donc, il y a aussi, comme je l'ai dit, le système d'incubation des énergies renouvelables dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine domestique, de l'énergie domestique, que ce soit le domaine de l'énergie combustible, les gens sont en train de tenter et suivant les directives de l'État. Et c'est au service technique d'accompagner les populations dans ce sens, même les collectivités par extension. Je pense bien.
Docteur Moussa Dabou, qu'est-ce que les populations peuvent faire à ce niveau pour se protéger des effets de ces canicules-là sur leur santé?
La population, de façon individuelle, oui, d'accord. Oui. Les mesures de prévention qu'on peut déjà instiller aux populations, c'est déjà, premièrement, de ne même pas s'exposer à la chaleur pendant un certain nombre de périodes. M. Yakti l'a dit. C'est-à-dire que les pics de chaleur, c'est généralement entre après 11h jusqu'à 15h. Donc quand on a des activités à faire, il faudrait les faire peut-être bien avant ces heures-là, avant 11h ou après vraiment 16h. Donc ça va faire qu'on sera moins exposé à la chaleur. Deuxièmement, c'est de voir en matière d'accoutrement, en matière vestimentaire, parce qu'on a parfois des vêtements qui ne sont pas très adaptés. Vous m'avez vu transpirer quand je venais, parce que j'ai un vêtement qui n'est pas forcément en coton pur, et qui, quoi qu'il soit ample, mais n'est pas en coton. Donc, c'est fait qu'on transpire beaucoup. Généralement, il est recommandé de porter des vêtements amples, en coton, et moins sombres. Pour ne pas attirer la chaleur. Ensuite aussi, il faudrait se rafraîchir. Se rafraîchir, comme on l'a dit, généralement, bon, chez nous, il y a un problème d'électricité. Sinon, même quand on fait ses courses pendant les pics de chaleur, quand on a des magasins ou des pharmacies qui sont ouvertes, qui ont de la climatisation, il faudrait peut-être rentrer, même si ce n'est pas pour acheter, pour bénéficier
de
la fraîcheur. Il faut prendre des bains réguliers, frais. Il faut aussi encourager la consommation de boissons beaucoup plus fraîche, enfin fraîche, que par exemple, on est coutumier du thé ici, on le prend très chaud, mais il est très commandé de prendre des aliments liquides assez frais. Pas glacés, mais frais. Mm-hmm. Parce que quand c'est glacé aussi, ça coupe la sensation de soif assez rapidement. Quand on boit quelque chose de très glacé, le phénomène de soif s'estompe rapidement. On boit moins et on est satisfait. Donc on est moins hydraté. Et il ne faudrait pas, quand on dit s'hydrater, ce n'est pas que boire de l'eau. Parce que quand on boit que de l'eau, il y a une hyperconsommation d'eau qui fait qu'il y a une diminution du sodium. Donc on recommande de prendre peut-être 1,5 à 2 litres d'eau, mais de compléter le reste par des aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Que ce soit là.
Vous nous apprenez des choses, parce que nous, on se disait que si plus on consomme de l'eau, plus on en boit, plus tu te portes bien.
Quand on consomme beaucoup plus d'eau que de l'eau, on entraîne le phénomène d'hyponatrémie par hyperconsommation. Ça veut dire, hyponatrémie, c'est la diminution du taux de sodium dans le sang par le fait qu'on a apporté beaucoup d'eau. Parce que par la transpiration, on va émettre ces sodiums-là. Donc, cette hyponatrémie peut entraîner la mort chez certaines personnes. C'est pourquoi on demande de prendre de l'eau, peut-être 1,5 à 2 litres, mais de compléter le reste par des aliments liquides. Que ce soit la pastèque, le mélange, pour ne pas citer les concombres,
des fruits,
voilà, des qui ont un fort potentiel d'eau. Hein. Mm-hmm. Quand on prend par exemple du concombre ou de la pastèque, c'est 90% d'eau. Mais sauf que ça contient des sels minéraux, que ce soit du sodium, du calcium, du potassium, etc. Donc ça, ça participe de l'équilibre hydroélectrique dont j'en ai parlé, qui fait qu'on va mieux se porter, en fait. Ce n'est pas de boire beaucoup d'eau, mais beaucoup d'aliments liquides, que ce soit les tisanes, les thés, les soupes, tout ça, c'est de l'eau. Hein. Dans notre tête, on pense qu'il faut boire que de l'eau. Mais tous les aliments liquides apportent une partie d'eau. Donc, je pense qu'il y a cela qu'il faut faire. Donc, il y a un certain nombre de mesures qu'il faut faire aussi. Il faut ventiler la maison. Comme on l'a dit, les maisons, chez nous, on a un problème d'ingénierie. Mais il faudrait songer à ouvrir les stores ou les fenêtres des maisons pendant les périodes où l'air est beaucoup plus frais dehors qu'à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire, comme on l'a dit, le petit matin jusqu'à 9h, vous allez trouver que l'air est beaucoup plus frais dehors. Et donc, il faut ouvrir les stores et les volets en ce moment. Et fermer quand c'est le contraire. Quand l'air est plus chaud, parce que vers 14h, il a dit qu'il y a un pic. Quand on est à 45 degrés, à l'intérieur de la maison, c'est beaucoup plus frais. Donc, il faut fermer. Et aussi, dans les maisons, vous allez trouver qu'il y a des parties des maisons qui sont beaucoup plus fraîches que d'autres. Donc, il faut déplacer les personnes âgées vers ces parties-là. Si on a un système de climatisation, tant mieux. Sinon, il faut créer un système de ventilation. Faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'humidité dans la maison. Parce que ce qu'il a dit est important, c'est-à-dire que le phénomène de chaleur est exacerbé par un taux d'humidité assez élevé. Ça, c'est assez courant. Moi, je suis allé dans quelques pays beaucoup plus tropicaux, par exemple en Côte d'Ivoire, où il fait moins de températures élevées, mais quand on y va là-bas, on transpire beaucoup plus qu'ici. C'est pourquoi, quand il a expliqué ça, j'ai acquiescé. Quand on est là-bas, on transpire. On ne fait que transpirer, alors que la température est moins élevée, mais le taux d'humidité fait qu'on transpire davantage. C'est pourquoi il faut préconiser des systèmes de ventilation qui vont faire que... Parce que le phénomène de compensation des pertes de chaleur chez nous, chez l'être humain, j'ai dit qu'on est hémotherme, c'est que quand il fait chaud, parce que la zone de confort thermique de l'homme, c'est entre 33 et 35 degrés. Passer ce cap-là, on déclenche les mécanismes de lutte contre la chaleur. Le premier qui était un mécanisme qu'on appelle évacuation active, lui, il permet d'augmenter le débit du cœur qui va pomper, qui va envoyer plus de volume de sang, qui va refroidir à l'interne. Le deuxième, c'est un système d'évaporation, d'exsudation. C'est la transpiration dont tu parles. Donc, la personne va déclencher par le cerveau un message qui va demander à l'organisme de produire de l'eau. Mais pour que l'eau soit produite, il faut déjà qu'on soit hydraté. Et ce phénomène va entraîner la sudation. Et lorsqu'on sue, ça capte la chaleur corporelle, mais il faut aussi un système de ventilation pour l'évaporer. Donc,
Prévient que nous sommes à 2 minutes de la fin, mais bien avant, il y a une question que j'aimerais bien poser au docteur. Mm-hmm. Pendant la période de forte chaleur, il y a des personnes qui décident d'aller dormir, par exemple, sur le toit des maisons. Est-ce que cela est conseillé?
Cela est conseillé parce que qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est le même phénomène que j'expliquais là. Mm-hmm. L'homme, pour que le phénomène d'évaporation par sudation soit efficace, il faut qu'il y ait un courant d'air. Ce courant d'air, quand on le trouve pas à la maison, on est obligé d'aller le chercher dehors. En fait, c'est ce qui fait... Parce que comme vous avez dit, on a des maisons en béton. Ceux qui décident d'aller en haut, c'est des maisons en béton. Donc, le béton capte la chaleur et il émet le soir. Donc, quand on n'a pas un système de ventilation ou de climatisation efficace, autant aller prendre l'air frais dehors. Et je crois que c'est conseillé.
C'est la fin de cette émission. Le thème était « Alerte canicule, le Mali face aux effets du changement climatique ». Pour en parler, on avait sur le plateau Dr Moussa Dabo, médecin au CCRF de la commune 6 de Bamako, Amadou Diakité, ingénieur à Mali Météo, Soumana Koulibaly, environnementaliste. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. À la technique, il y avait Gagné Kanté et Ibrahim Sanogo. Le débat a été coordonné par Sekou Gadjigo. Merci. Merci et à la prochaine.